Il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Dans un instant, les débats de Punchline, mais tout de suite, c'est le journal avec Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Comme un air de pré-campagne, Emmanuel Macron est en visite dans le Cher aujourd'hui, Vierzon puis Bourges, l'occasion de quelques échanges sans filtre.
Et puis un sondage Elab le donne perdant contre Valérie Pécresse au second tour. Un mort, 5 blessés, 2 habitants toujours portés disparus. Bilan provisoire à Sanary dans le Var après l'effondrement d'un immeuble. La vaccination des 5-11 ans, sujet sensible pour les parents. Et des vaccins Moderna pour certains qui voulaient du Pfizer, on va vous expliquer ça. Et puis PSG Bruges en Ligue des Champions, la rencontre a commencé il y a un quart d'heure. Ça donne quoi pour l'instant, Cédric Chasseur?
Eh bien, il ne fallait pas arriver en retard. Déjà 2-0 pour le PSG, doublé de Kylian Mbappé à la 2e et à la 7e minute. Et sans Simon Mignolet, le gardien de Bruges, ça pourrait être pire. Je vous donne rendez-vous dans 10 minutes, peut-être que le score aura déjà changé.
Suspense, merci Cédric Chasseur, on vous retrouve au parc à la fin de ce journal.
Et la tendance météo avec Marlène Duret, combien de buts ma chère Marlène?
Au niveau des températures, au niveau de la neige, bonsoir à tous.
Bonsoir Hélène. Marlène, pardon.
Plus fraîche les températures, on a la perturbation d'aujourd'hui qui va gagner l'est du pays et à son passage, beaucoup de neige à basse altitude dans les Alpes, on en parle à la fin du journal.
Europe 1.
Immersion dans la vraie vie, donc pour Emmanuel Macron, qui ne retrouvera l'Élysée que demain soir.
Oui, le chef de l'État est allé au contact des Français aujourd'hui, ce matin dans les rues de Vierzon dans le Cher, déjeuner dans un relais routier de Bourges, puis rencontre avec des auxiliaires de vie. Une journée que vous avez suivie pour nous, Jacques Serret.
Oui, un café, une pâtisserie, un magasin de vêtements.
Bonjour, et vous?
Ça va? Emmanuel Macron va au contact et les Français l'interpellent. Ici, dans le centre-ville de Vierzon, il doit répondre au mécontentement d'une retraitée.
Je vais vous poser une question.
Dites-moi, madame.
Pour les retraités, vous faites quoi actuellement? Rien? Alors, ceux qui ont des petites retraites, normalement, elle aurait dû être très valorisée.
Exactement, ça on l'a fait.
Ah non, vous n'avez rien fait, parce que moi, j'ai rien.
Vous avez tous vos trimestres?
Ah, j'ai tous mes trimestres.
On a remonté le minimum vieillesse. Donc, ce qu'on peut peut-être voir, c'est regarder que vous ayez bien fait toutes les demandes pour avoir été éligible à ça. Donc ça, je vous envoie quelqu'un pour qu'on regarde pour vous.
Discussion sans filtre et une déambulation qui aura duré près de 3 heures avant que le président ne se rende à une quarantaine de kilomètres à Bourges. Écoutez des auxiliaires de vie.
Je vous mets à l'aise, c'est-à-dire que dites-moi les choses telles que vous avez de manière intime plutôt envie de me les dire.
Manière pour Emmanuel Macron de prendre le pouls des Français à 4 mois de la présidentielle. En petit comité, hors micro, le chef de l'État a confié ses impressions. On sent une fatigue, que le Covid met un coup au moral, explique Emmanuel Macron, pour qui les Français sont moins positifs qu'il y a 2 mois.
Mais la politique n'était pas bien loin, Jacques. Ce matin sur RMC, Éric Zemmour traitait le président d'adolescent qui se cherche, de type qui n'est pas fini. Emmanuel Macron refuse d'entrer dans la polémique.
Oui, le président ne répond pas directement à ses propos, mais il a tout de même lâché quelques mots suite à l'interpellation d'un habitant qui se dit insulté tous les jours par Éric Zemmour.
Non, il faut apaiser tout ça.
Ah non, ça va apaiser.
Il faut prendre de la hauteur, mettre du calme. Notre pays, il a besoin d'ambition et de bienveillance.
Pas besoin de se déchirer, dit Emmanuel Macron, qui compte bien montrer qu'il est au-dessus de la mêlée, tout en faisant campagne.
Jacques Serret à Bourges pour Europe 1 et à 19h30, le chef de l'État sera dans la petite ville de Châteaumeillan pour assister au conseil municipal, puis dîner avec les élus.
Et puis un mot de politique encore, Hélène. Selon un sondage Elab pour L'Express et BFM TV, Valérie Pécresse l'emporterait au second tour de la présidentielle contre Emmanuel Macron.
Et oui, 52-48. Certes, nous sommes à plus de 4 mois de l'élection, Alexandre Chauveau, mais c'est quand même la première fois depuis longtemps que quelqu'un est en position de battre l'actuel président.
Oui, et c'est le principal enseignement de ce sondage, preuve que la dynamique est puissante, fait-on savoir dans le camp Pécresse, et surtout qu'Emmanuel Macron est battable, et ce uniquement par elle. Le président de la République donné perdant pour la première fois et qui ne recueillerait que 23% des suffrages au premier tour, score assez bas qui est même inférieur à ce qu'il avait obtenu pour se qualifier en 2017. Alors indéniablement, Valérie Pécresse bénéficie de la dynamique du Congrès, elle prend 11 points de plus par rapport au dernier sondage réalisé par le même institut fin novembre et atteint les 20% d'intention de vote au premier tour. Mais pas question non plus de s'emballer dans l'équipe de la candidate qui a bien conscience de l'effet grossissant du Congrès. En 2016, François Fillon était crédité de 30% d'intention de vote après sa victoire à la primaire de la droite. Une dynamique dont avait également bénéficié Benoît Hamon en remportant la primaire de la gauche en janvier 2017. Le socialiste était alors donné à 15% avant de chuter finalement à 6%.
Voilà, il faut se méfier des sondages. Alexandre Chauveau, chez les Républicains, 2 vice-présidents sur la touche. Guillaume Pelletier démit de ses fonctions pour des propos favorables à l'extrême droite. Idem pour Gaël Perdriau, critique vis-à-vis d'Éric Ciotti, mais aussi de Valérie Pécresse.
L'actualité ce soir, c'est aussi le drame de Sanary, dans le Var, l'explosion d'un immeuble, sans doute dû au gaz.
Oui, pour l'instant, le bilan est d'1 mort, 5 blessés. 2 personnes sont toujours portées disparues au Céanne Théard. et les recherches se poursuivent.
Oui, la centaine de pompiers sur place doit enlever un à un les débris de pierre et de béton avec une grue pour tenter de retrouver ces deux personnes prises au piège. Il s'agirait d'une mère et de son fils qui habitaient le rez-de-chaussée de cet immeuble d'après la préfecture du Var. Les secours ont déjà retrouvé le corps d'un homme d'une trentaine d'années ce matin décédé dans l'explosion. Probablement un père de famille dont la femme et le bébé ont été secourus un peu plus tôt dans la matinée. Trois autres blessés légers ont été transportés à l'hôpital ce matin. Et après cette déflagration qui a fait trembler la ville cette nuit, l'émotion étreint ses 15 000 habitants, raconte Olivier. Il vit à Sanary-sur-Mer depuis 20 ans.
Ça fait partie de toutes les conversations aujourd'hui, quoi. J'ai vu des gens pleurer parce qu'ils ne pouvaient pas retenir leurs larmes. Ils sont vraiment touchés et sincères, en fait, dans ce témoignage de deuil et de douleur qu'ils ont concernant nos concitoyens qui ont perdu la vie cette nuit, quoi. La ville est en deuil.
Pour l'instant, la piste de la fuite de gaz est étudiée. D'après la préfecture du Var, une enquête de police est en cours.
Océane Théard, on vous parlait il y a quelques minutes de la déambulation d'Emmanuel Macron à Vierzon. Il a rencontré un patron de boîte de nuit devant lequel il s'est engagé à rouvrir les discothèques au plus vite.
Justement, les professions en difficulté à cause des nouvelles mesures sanitaires étaient reçues cet après-midi par le ministre chargé des PME, Alain Griset.
Oui, boîtes de nuit qui devront fermer pour 4 semaines à partir de vendredi, mais aussi acteurs de l'événementiel qui voient de nombreux contrats s'évaporer comme neige au soleil. Le gouvernement promet de les aider, Élise Dangean.
Absolument, des aides très ciblées dont on commence à voir les contours. Le gouvernement prévoit notamment de muscler le dispositif actuel de prise en charge des coûts fixes pour qu'il couvre l'intégralité des charges des entreprises impactées, soit par des fermetures, soit par des annulations, et non 90% comme c'est le cas actuellement. En revanche, on ne sait toujours pas quel niveau de perte de chiffre d'affaires sera retenu pour avoir droit à cette aide. Le dispositif pourrait être prolongé au-delà du 31 décembre si nécessaire. Concernant l'activité partielle, eh bien, elle devrait être remise en place et prise en charge à 100%, donc sans reste à charge pour l'employeur. Mais le report du remboursement des prêts garantis par l'État est, lui, exclu par le gouvernement. C'est pourtant une demande très appuyée des représentants de l'événementiel et de ceux des discothèques qui se demandent bien comment ils vont pouvoir faire des réserves financière avec un mois de fermeture. En tout cas, Bercy promet de retravailler ces mesures et de rendre une réponse la plus rapide possible.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Arrestation en France d'un membre présumé du commando impliqué dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. C'était en 2018 à Istanbul. L'homme a été arrêté ce matin à l'aéroport de Roissy. Il est placé en rétention judiciaire. Hasard ou pas, cette arrestation intervient 3 jours après la visite d'Emmanuel Macron en Arabie Saoudite.
Allez, une petite pause dans le journal et puis on va parler de la vaccination des enfants. Ça se précise, mais beaucoup de parents hésitent. À tout de suite dans le journal sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans le journal de 19h avec Hélène Zélani. Hélène, en pleine cinquième vague, l'OMS appelle à mieux protéger les enfants, la classe d'âge la plus touchée par le
Covid. Oui, et en France, les 5-11 ans les plus fragiles pourront recevoir une dose à partir du 15 décembre. Pour les autres, ce sera plus tard si les parents sont d'accord. À Toulouse, Benjamin Péter a en tout cas rencontré des parents bien souvent assez réticents.
Je trouve qu'elle est trop petite et qu'on n'a pas assez de recul sur le vaccin.
Serge a beau être vacciné, il n'en veut pas pour sa fille de 7 ans. Élodie, elle, est soignante. Elle n'est pas contre le vaccin, mais pas pour son fils de 6 ans.
Pour le moment, non, on va voir. Je pense que plutôt les personnes âgées, la vaccination devrait être obligatoire pour tous les adultes. Pour les personnes à risque surtout, mais après pour les enfants, non.
Anne, elle aussi, est très hésitante pour ses 2 enfants, mais elle n'aura pas à se poser la question tout de suite.
Je suis très contente, mes enfants viennent tous les deux d'être positifs et n'ont aucun symptôme. Du coup, je n'aurai pas la vaccination pour l'instant, parce que pour l'instant, on est opposé à la vaccination. Nous, on est vaccinés, mais nous, on a plus de 40 ans, on ne devait plus avoir d'enfants. J'estime que je ne suis pas en pleine croissance avec les hormones et voilà.
Bertrand, en revanche, est prêt à prendre un rendez-vous pour son fils de 9 ans, sans aucune appréhension.
Je suis prêt à le faire, ma fille a été vaccinée, l'aînée, qui était éligible, on ne s'est pas posé la question. Donc s'il faut le faire pour le petit, oui, ouais. Si ça peut permettre de limiter la diffusion du virus, oui, on le fera. Si on ne fait rien, on va continuer à vivre comme des reclus.
Et le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué hier soir qu'il espérait pouvoir ouvrir la vaccination pour tous les 5-11 ans dès le 20 décembre. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Vaccination encore, la plupart des Français veulent du Pfizer, mais ils ne l'auront peut-être pas.
Et oui, c'est une information Europe 1. Certains centres de vaccination envoient des messages aux futurs vaccinés pour les prévenir qu'ils risquent de recevoir une injection de Moderna et pas de Pfizer, Céline Géraud.
Pfizer plutôt que Moderna, En pleine campagne de rappel, la préférence des candidats au vaccin est très marquée. Et pourtant, le message des autorités sanitaires est clair. Les deux vaccins sont interchangeables. Le Moderna est même préconisé pour les plus de 30 ans. Les explications de Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
Il faut dire et il faut le répéter aux gens de plus de 30 ans, il n'y a aucune contre-indication à vacciner en Moderna pour ceux qui ont eu du Pfizer les deux premières doses. Troisième dose, il faut faire une demi-dose de Moderna. Parce qu'on s'est rendu compte que le Moderna était plus dosé que le Pfizer. Il était plus efficace, mais il générait chez les gens jeunes des effets secondaires qui étaient plus importants. Et c'est pour ça qu'il a été recommandé de ne vacciner les gens qu'au-delà de 30 ans.
Et si l'on propose en priorité le Moderna en centre de vaccination, c'est aussi pour une raison logistique. Chaque flacon de Moderna contient 24 doses. Une fois entamé, il faut suffisamment de candidats pour ne pas les perdre. Le Pfizer, qui compte 6 doses par flacon, est donc envoyé en priorité dans les pharmacies où le trafic est moins important. À ce jour, il y a 20 millions de doses de Moderna écoulées, contre 5 seulement de Pfizer.
Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1. Sachez aussi qu'après le Grand Est et Lyon, c'est maintenant au tour des hôpitaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur de déclencher le plan blanc. L'Agence régionale de santé en profite pour demander à tous les professionnels de santé volontaires, étudiants ou retraités par exemple, de venir soutenir les équipes soignantes à l'hôpital.
Allez, football, PSG Bruges en Ligue des Champions, c'est en ce moment, il y a déjà un feu d'artifice. Hein.
Oui, on entend, la rencontre a débuté à 18h45. Cédric Chasseur, vous êtes au Parc des Princes. Où en est le score ?
Eh bien, ça n'a pas bougé après presque 30 minutes de jeu ici au Parc des Princes. 2-0 pour le PSG face à Bruges. Des buts inscrits très rapidement par Kylian Mbappé. Le premier dès 71 secondes de jeu et le second à la 7e minute. Kylian Mbappé qui est pour le coup devenu le plus jeune joueur de l'histoire à inscrire 30 buts en Ligue des Champions à 22 ans et 352 jours. Il devance un certain Lionel Messi dans ce domaine. Le PSG qui nous montre un très beau visage ce soir. On s'interrogeait justement sur la possibilité pour le PSG d'utiliser ce match sans enjeu, puisque le PSG est assuré de terminer deuxième, pour nous montrer un visage un peu plus flamboyant que ces dernières semaines. Et bien pour l'instant, c'est plutôt réussi. Paris, avec la grosse armada, en tout cas avec les joueurs disponibles en ce moment, nous montre un visage plutôt rayonnant et le public ici apprécie le spectacle. Donc 2-0 et on est arrivé quasiment à 30 minutes de jeu entre le PSG et Bruges.
Cédric Chasseur dans le froid du Parc des Princes pour Europe 1.
Voilà qui nous amène à la météo de Marlène Duret. Marlène, demain, temps agité ou précisément ?
Alors, on va commencer, Laurence, par l'est du pays. Hein, dans le sillage de la tempête irlandaise Barra, on a eu une perturbation bien active aujourd'hui. Elle continue de traverser le pays et elle va gagner les régions de la moitié est. Elle va résister demain de l'Alsace à la Provence-Alpes-Côte d'Azur en passant par la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes. La neige peut tomber assez bas dans les Alpes vers 500-600 mètres. On attend une bonne couche, ce qui peut impacter les axes routiers hein, entre Briançon, Gap ou Grenoble hein, par exemple. Le risque d'avalanche est maintenu, il est de 3 sur une échelle de 5. Temps agité également en Corse, beaucoup de pluie, surtout sur sa partie ouest. On continue avec les Pyrénées. Des averses de neige assez conséquentes des 600 mètres. On prévoit 15 à 30 cm d'or blanc. De fréquentes averses également dans le Pays Basque. Alors là, toute la journée, hein, des douches incessantes. Des averses plus éparses sur un bon quart sud-ouest. Le risque vaudra aussi le long des côtes atlantiques et de la Manche, où là les averses peuvent prendre un petit caractère orageux avec du grésil par endroit. Voilà, c'est là où c'est le plus agité. Le reste des régions, c'est calme. Les températures en journée, bon, plutôt en baisse. Il fera entre 4 et 9 degrés en général, avec 8 à Paris, jusqu'à 10-13 degrés sur l'arc méditerranéen et même les 15-16 en Corse.
Merci beaucoup Marlène Duret, bonne soirée à vous. Hélène, on se retrouve demain à 19h pour le journal. Tout de suite, ce sont les débats de Punchline avec Emmanuel Macron qui est en visite sur le terrain et puis on entendra la violence des attaques d'Éric Zemmour contre le président de la République. À tout de suite.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.